France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. C'est une mesure de justice sociale, disent les uns, une régression pour l'environnement, pour la santé publique, disent les autres. La suppression des ZFE a été votée hier soir par les députés. Les voitures les plus polluantes pourraient donc être à nouveau autorisées à circuler dans le centre de Paris, de Lyon, de Grenoble. Et ce vote est aussi le récit d'un échec pour le gouvernement qui, on le verra, avait tenté de sauver au moins partiellement le dispositif. Autre camouflé dans l'actualité aujourd'hui, la justice américaine bloque les droits de douane voulus par Donald Trump. La Maison-Blanche promet de riposter. Et à Bruxelles, vous vous trouvez. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Cette décision, on l'imagine, a été suivie avec attention.
Avec attention, avec un soulagement, un brin revanchard, mais aussi une certaine prudence.
Et on vous retrouve dans quelques minutes pour plus de précisions, Fabien Cazot. On reviendra aussi sur cette image spectaculaire, ce glacier qui s'effondre en Suisse et qui recouvre totalement un village. Ce phénomène pourrait-il se reproduire? Des glaciers français sont-ils menacés? Question posée dans quelques instants à notre invité. On ira aussi à Issoudun dans l'Indre où la municipalité soutient activement son musée, à Roland-Garros où les Français font face à des adversaires de très haut niveau, Richard Gasquet notamment qui rencontre le numéro 1 mondial et qui joue peut-être cet après-midi son tout dernier match après une carrière que salue son collègue et ami Julien Cassaigne.
Il a gagné un match sur le circuit ATP à 16 ans, il a gagné un tournoi à 37 ans. Richard, il a plus de 600 victoires sur le circuit, mais les gens peut-être ne se rendent pas assez compte du talent qu'il faut pour être 22 ans dans les 100 meilleurs joueurs du monde.
Quelle est la recette du succès du PSG? On va en parler aussi à 13h30 avec nos invités, avec vos questions également, 01 45 24 7000, à 3 jours maintenant de la finale de la Ligue des Champions. Et puis pour nous emmener jusqu'à 14h, on fêtera les 50 ans du premier marché bio avec Marie-Luce Ribaud, ça se passe à Villeneuve-sur-Lot. Et puis Anne Parillaud choisit Vivaldi dans C'est une chanson. Voilà, vous avez le programme, c'est parti pour le 13-14.
France Inter.
Ce sont 600 000 à 1 million de véhicules, selon les estimations, qui pourraient être directement concernés et qui pourraient à nouveau circuler prochainement dans les métropoles, d'où ils étaient exclus pour cause de pollution trop importante. Hier soir, les députés ont en effet décidé de supprimer les zones à faible émission, initiative du Rassemblement National des Républicains, soutenue par des insoumis et quelques macronistes, les ZFE jugées trop pénalisantes pour les automobilistes qui n'ont pas les moyens de changer de voiture. Alors et maintenant, que va-t-il se passer, notamment dans les grandes villes? Je le disais, Paris, Lyon, Grenoble, Montpellier, où le dispositif était mis en place. On va en parler avec vous. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Alors, est-ce que le risque, c'est de voir la pollution de l'air repartir à la hausse?
Eh bien, ce qui est sûr, Céline, c'est que les ZFE font partie des mesures qui limitent les émissions de particules polluantes, comme le dioxyde d'azote, issu des moteurs diesel, rappelle Anne Lassmann-Trappier, experte qualité de l'air chez France Nature Environnement.
Les restrictions de circulation en ville ont fait leur preuve. Partout où elles ont été mises en place, elles ont fait baisser vraiment de façon importante, on parle de 30 à 40% les émissions de polluants en ville.
Le ministère de la Transition écologique estime à 600 000 pour Paris, 40 000 pour l'agglomération de Lyon. Les véhicules concernés qui pourraient revenir au risque de voir à nouveau la pollution de l'air augmenter, elle qui touche, on le rappelle, les plus fragiles, les enfants, mais aussi les plus pauvres qui vivent près des axes routiers. Risque de maladies respiratoires, mais aussi cardiovasculaires, de cancer ou de diabète, elle fait plus de 40 000 morts par an.
Alors il faut rappeler qu'il y a un cadre réglementaire européen, que les États doivent respecter pour lutter contre la pollution de l'air, la France risque-t-elle des sanctions?
Oui, car la justice administrative a condamné l'État pour avoir dépassé ses seuils de pollution à 5 astreintes entre 2021 et 2023, au total de 40 millions d'euros. Mais pas cette année, pour la première fois, car la qualité de l'air des villes s'améliorait. Avec la fin des ZFE, Anne Lassmann-Trappier estime que la justice pourrait sévir à nouveau.
On peut s'attendre à ce que la pollution ne baisse pas en ville, augmente peut-être même et soit de nouveau illégale. Le spectre du contentieux revient. Et puis de toute façon, on a une directive européenne qui va sévériser les niveaux de polluants le 1er janvier 2030. Actuellement, on a des dizaines de villes qui ne seraient pas dans les clous par rapport à ces nouvelles directives. Moi, ma question aux parlementaires, c'est qu'est-ce qu'ils proposent en échange des ZFE?
Cette directive européenne sur la qualité de l'air ambiant diminue de moitié les seuils de pollution aux particules qui seront autorisés dans l'atmosphère de nos villes.
Alors, on vient d'évoquer les conséquences financières sanitaires, merci Rémi Brancato, mais elles sont aussi ces conséquences politiques. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Parce que la mise en place de ces ZFE était une mesure emblématique de la grande loi climat et résilience du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. On peut donc parler d'un camouflet pour le gouvernement?
Oui, car la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, avait tout tenté pour essayer de sauver les meubles, comme le dit un député Renaissance, notamment avec cet amendement qui visait à rendre les ZFE facultatifs associatives, liberté laissée aux maires, sauf à Paris et à Lyon où elles auraient été obligatoires. Amendement rejeté hier soir. Avant cela, pour convaincre, elle avait lancé un record de la qualité de l'air avec notamment le ministre de la Santé venu des rangs de la droite. Insuffisant, alors hier soir, réaction amère de son cabinet. Ce vote est regrettable, euphémise le communiqué de presse. Mais où étaient les députés macronistes pendant le vote ? S'agace une autre source au sein de l'exécutif. À peine une quinzaine d'élus présents dans l'hémicycle, une mobilisation molle. Le co-rapporteur du texte, Stéphane Travert, tente de justifier au micro France Inter de Sonia Gobry.
Écoutez, moi je ne suis pas ici pour surveiller qui est là et qui n'est pas là. En tous les cas, si le texte est adopté, il y aura la commission mixte paritaire et nous essaierons, dans le dialogue avec les sénateurs, de voir comment nous pouvons réintégrer les ZFE.
Alors les ZFE repêchés en commission mixte paritaire, ça semble compromis, douche un conseiller de l'exécutif au fait du dossier, le Sénat est contre. Déception ce matin dans une partie du camp présidentiel. Hier c'était les ZFE, lundi la loi Duplomb sur les néonicotinoïdes notamment. Un député macroniste résume, on est en train de s'attaquer à notre propre bilan écologique et de défaire ce que l'on a fait nous-mêmes.
Merci Marie Mollet, service politique de France Inter. Et puis c'est un autre dossier très clivant qui illustre lui aussi le difficile équilibre entre l'accessibilité des territoires et les questions écologiques. Le chantier de l'A69 va pouvoir reprendre dans le Tarn, décision de la cour d'appel administrative, alors que les travaux sont interrompus depuis le mois de février. Une première décision de justice, cela fait des années que les défenseurs de l'environnement et les élus locaux se déchirent sur cette autoroute qui doit relier Castres à Toulouse. Et entre ces deux villes, eh bien, il y a des villages où l'on a hâte visiblement de passer à autre chose. Bonjour Thomas Giraudeau.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Soile, c'est une commune de 2700 habitants, où l'on est, Thomas, globalement favorable à la reprise des travaux.
Oui, y compris les voisins les plus directs du chantier, au bout d'une rue barrée à la sortie de Soile. Au-delà, eh bien, c'est l'autoroute en construction. Michel a vu direct sur les travaux, une grande ligne droite tracée au milieu des champs, prête à être bitumée et elle n'attend que la reprise du chantier.
J'étais ravie. Bien sûr que ça fait du bruit. Je ne vais pas vous dire que ça ne fait pas de bruit. Mais il faut toujours un désagrément pour avoir quelque chose de positif.
Pour aller sur Toulouse, ce sera beaucoup plus rapide en cas d'urgence.
Oui, se rendre à l'hôpital, au CHU. Aujourd'hui, il faut une bonne heure pour l'atteindre depuis Soile par la Nationale qui relie Castres à Toulouse. L'autoroute ferait gagner plus de 20 minutes selon les pros à 69.
Du moment où le chantier est attaqué, ben, en fait, faut aller au bout, quoi.
Mélanie fait de longs détours à cause des travaux, donc plus ils se terminent vite et mieux c'est pour cette mère de deux enfants.
Il y a des familles qui travaillent pour l'autoroute, il fallait que ça reprenne pour la dynamique locale et le commerce.
L'espoir de nouveaux clients passant par l'autoroute, s'arrêtant à Soile, la sortie sera tout près du village. Dans le café du centre-ville, très calme en cette mi-journée, à peine 5 clients attablés, déplore le patron Wilfried, les affaires ne sont pas très bonnes.
Du fait que ça reprenne, bien sûr, pour nous, c'est que du plus. Mais on va travailler un peu plus, les journées seront moins longues, je pense. Un coup, ça s'arrête, un coup, ça reprend. Je pense que, ouais, il faut en finir.
Il faut en finir, on ne peut pas rester dans cet entre-deux, soutient le maire de Soile, Jean-Luc Alibert. La reprise des travaux permet aussi, selon ce partisan de l'autoroute, au concessionnaire, eh bien, de mener tous les travaux de compensation environnementale.
Il était temps que le chantier reprenne, puisqu'on se retrouve aujourd'hui avec des endroits où, par exemple, des bassins de rétention n'ont pas pu être réalisés et terminés. Nous avons des liaisons douces aussi, qui étaient en cours de réalisation et qui ont été stoppées net. Donc, au niveau environnemental pur, on va dire, les conséquences sont relativement désastreuses à aujourd'hui.
Mais les travaux pourraient de nouveau s'arrêter dans quelques mois, comme ce printemps, si les juges de la Cour administrative d'appel de Toulouse ou du Conseil d'État, bientôt saisis par les opposants, annulent l'autorisation environnementale qui permet le chantier.
Thomas Giraudeau, envoyé spécial de France Inter à Soile, dans le Tarn. Décidément, c'est un dossier bien compliqué à suivre entre annonces fracassantes et suspensions de dernière minute. Le feuilleton des droits de douane aux États-Unis vient de connaître un nouvel épisode. Un tribunal américain estime que Donald Trump a outrepassé les pouvoirs dont il dispose. Les surtaxes sont donc bloquées. La Maison-Blanche crie au scandale, dénonce une décision de la part de juges qui ne sont pas élus, qui n'ont pas le pouvoir de gérer une urgence nationale. Le président Trump va faire appel. Mais ce camouflet judiciaire donne un peu d'espoir à tous ceux qui s'opposent à ces barrières douanières. Fabien Cazot, on vous retrouve à Bruxelles, où l'on sent beaucoup de soulagement.
Oui, un soulagement, un brin revanchard. Personne ici n'a oublié le 2 avril dernier, présenté comme un Liberation Day par Donald Trump, qui annonçait ce jour-là une flopée de droits de douane contre le monde entier. Les voilà retoqués. Bien fait, savoure l'eurodéputée Aurore Laluc, présidente social-démocrate de la Commission des affaires économiques au Parlement européen.
En fait, le Liberation Day de Donald Trump a été présenté comme un espèce de blockbuster qui allait déferler sur le reste du monde. Et en fait, c'est au sein de son pays des entreprises qui ont saisi la justice. Donc, c'est un nouveau revers pour Donald Trump. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas comme il le souhaitait. C'est revers sur revers.
Soulagement, mais aussi grande prudence de la part de l'eurodéputée centriste Marie-Pierre Védrenne, qui siège à la Commission Commerce International.
C'est un élément d'affaiblissement, effectivement, de Donald Trump, mais je pense qu'il ne faut pas compter sur la rationalité pour autant de Donald Trump. On le voit bien, les premières déclarations évoquent le fait que justement cette décision repose sur des juges non élus. Donc il va continuer.
Prudence donc, car d'une part, Donald Trump fait appel, et d'autre part, nul ne sait ce que déciderait le Congrès américain s'il lui revenait finalement la mission de statuer sur les droits de douane tant voulus par Donald Trump.
Merci Fabien Cazot, en direct de Bruxelles, où vous êtes le correspondant de France Inter. La Chine, de son côté, en profite pour redire son opposition à ce protectionnisme qui, je cite, ne profite à personne, et pour demander l'annulation de ses droits de douane. Par ailleurs, Donald Trump est aussi la cible de critiques aujourd'hui de la part d'Elon Musk, c'est la première fois. Le multimilliardaire se dit déçu par la grande loi économique du président américain. Elon Musk met fin aujourd'hui officiellement à ses fonctions gouvernementales après 4 mois passés à couper parfois très durement dans les dépenses publiques. Y aura-t-il de nouveau pourparlers entre l'Ukraine et la Russie lundi prochain à Istanbul ? Les discussions préalables ne se passent pas très bien. L'Ukraine a accepté cette nouvelle réunion proposée par le Kremlin, mais demande à Moscou de présenter à l'avance ses conditions en vue d'une paix pour que les négociations soient constructives, ce que critique la Russie. Le président turc Erdogan appelle à ne pas fermer la porte au dialogue, alors que sur le terrain, l'armée russe revendique aujourd'hui la prise de 3 villages dans l'est de l'Ukraine. Dans la bande de Gaza, la reprise de l'aide humanitaire se fait décidément dans la plus grande confusion. Hier soir, des milliers de Palestiniens ont pillé un entrepôt du Programme alimentaire mondial. Il s'agissait de gens affamés à la recherche de nourriture, raconte le PAM, qui réclame un accès humanitaire sûr et sans entrave. Les Nations Unies reprochent aux autorités israéliennes de ne pas laisser entrer suffisamment d'aide au regard des besoins immenses de la population, alors que les bombardements par ailleurs se poursuivent. La défense civile de Gaza annonce aujourd'hui 44 morts dans des frappes israéliennes. Et c'est dans ce contexte qu'Israël fait une nouvelle annonce qui risque de tendre encore davantage ses relations avec la communauté internationale. Michel Paul, vous êtes à Jérusalem. C'est le ministre d'extrême droite, Bezalel Smotrich, qui annonce aujourd'hui la création de 22 nouvelles colonies de peuplement en Cisjordanie occupée.
Une journée historique pour Israël, proclame le ministre des Finances Bezalel Smotrich. Pour le ministre de la Défense Israël Katz, c'est une décision qui va changer la face de la Judée-Samarie, le terme utilisé en hébreu pour la Cisjordanie. Feu vert donc pour la création de 22 points de colonisation sur l'ensemble de cette région. Ils sont répartis sur tout le territoire occupé par Israël, au nord, au sud et dans le centre, rendant encore plus difficile la création d'un futur État palestinien. La décision a été prise par le cabinet de sécurité israélien alors qu'un nouveau plan de trêve à Gaza et de libération d'otages vient d'être présenté par les États-Unis et que la France doit présider avec l'Arabie Saoudite en juin une conférence des Nations Unies destinée à favoriser la solution de paix des deux États. Israël répondra à des décisions unilatérales par des mesures unilatérales, avait prévenu la semaine dernière Gideon Saar, le ministre israélien des Affaires étrangères. Jérusalem, Michel Paul, RFI, pour France Inter.
Et à l'instant, la réaction du Hamas qui parle d'un défi flagrant à la volonté internationale à propos de l'annonce de ces nouvelles colonies en Cisjordanie occupées. Un bruit assourdissant suivi d'un immense silence et un nuage de glace et de gravats qui dévalent la pente d'une montagne. Vous avez peut-être vu les images de ce glacier qui s'est effondré hier après-midi en Suisse. Un village de 300 habitants qui avait été évacué il y a quelques jours était totalement recouvert. Les sauveteurs sont aujourd'hui à la recherche d'une personne disparue. Les autorités parlent d'un événement très rare. Mais peuvent-ils devenir plus fréquents, ces effondrements sur fond de changement climatique ? On va poser tout de suite la question à notre invité, Ludovic Ravanel. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans le 13-14 de France Inter. Vous êtes géomorphologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste justement des écroulements. Est-ce que vous avez été, vous, d'abord surpris par cet effondrement spectaculaire ?
Alors, surpris, oui, toujours, parce que là, le volume est tout à fait extraordinaire. C'est plutôt des événements qu'on attend en Himalaya ou dans les Andes. Mais pour l'échelle des Alpes, oui, effectivement, c'est tout à fait extraordinaire.
Alors, comment expliquer, justement, cet écroulement ? Alors, il avait été plus ou moins prévu, puisque le village en contrebas avait été évacué. Qu'est-ce qui a déclenché, finalement, cet écroulement ?
Alors, c'est un site qui est suivi depuis les années 1990, puisque c'est un glacier qui produit des avalanches de glace qui ont pu par le passé rejoindre la route cantonale. Et le système d'observation qui a été mis en place a permis de voir, il y a une dizaine de jours, des mouvements au niveau de la paroi rocheuse située en amont du glacier. Et mes collègues suisses ont estimé le volume mobilisé à 5 millions de mètres cubes. Donc, c'est tout à fait énorme. Et heureusement, c'est pas tombé en une fois. Alors heureusement, par rapport au jour précédent, puisque hier finalement il y a eu un effet majeur, c'est-à-dire que les plusieurs centaines de milliers ou plusieurs millions de mètres cubes qui sont tombés sur le glacier l'ont fortement alourdi, ce qui fait que ce glacier s'est mis à accélérer jusqu'à être déstabilisé en partie avant-hier avec une première grosse avalanche. Puis finalement hier, c'est toute la masse du glacier plus tout ce qui recouvrait le glacier en termes de masse rocheuse qui est descendu, occasionnant une avalanche absolument phénoménale, constituée de glace, d'eau, de boue et de roche.
Mais vous dites que c'était surveillé depuis des années, ça veut dire qu'on savait qu'à un moment c'était inéluctable, ça allait s'effondrer ?
Alors, pas forcément. C'est le glacier qui inquiétait. Par contre, le fait que la paroi rocheuse en amont du glacier se déstabilise, là, c'est pas du tout envisagé. Et c'est l'observation sur les derniers 10 jours qui a montré que potentiellement, on pouvait avoir ce type de phénomène.
Alors, on se demande forcément, Ludovic Ravanel, est-ce que ce scénario peut se reproduire ailleurs ? Je pense notamment au glacier français.
Alors, à l'identique, c'est presque impossible, puisque là, on a un certain nombre de facteurs vraiment très, très particuliers. Néanmoins, dans les Alpes françaises, on est quand même affecté par ce qu'on appelle les ROGP, c'est-à-dire les risques d'origine glaciaire et périglaciaire. Et on a effectivement des glaciers, des parois qui peuvent être suivies, mais généralement avec des volumes quand même bien moindres.
Et justement, vous parlez de surveillance, c'est-à-dire que les risques, on les connaît. La surveillance, elle est quotidienne. Il n'y a pas de risque que ça arrive sur un village qui n'aurait pas été prévenu, pas évacué.
Alors, les risques sont très faibles. Il y a des secteurs du point de vue glaciaire ou du point de vue des parois qui sont actuellement suivis, soit pour des raisons scientifiques, soit pour des raisons de gestion des risques. Ce qu'il faut par contre garder à l'esprit, c'est le fait qu'il y a des sites qui, potentiellement, à l'avenir, pourront nous surprendre. Et c'est pour ça que nous, scientifiques, gestionnaires des risques, on est quand même relativement peu. Il nous faut également des gens sur le terrain qui puissent nous renseigner, comme des guides, des accompagnateurs en montagne, pour éventuellement envisager les signaux avant-coureurs qui pourraient nous faire penser à quelque chose ensuite de plus important.
Le changement climatique, est-ce que c'est le seul facteur d'explication ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui fragilisent justement ces parois rocheuses ?
Alors, fondamentalement, c'est des parois rocheuses qui sont déjà très fracturées. Donc, elles sont vouées à une échelle géologique assez longue à tomber. Par contre, très clairement, on a un signal climatique qui est très fort. Le phénomène qui a déclenché le premier événement, c'est-à-dire la déstabilisation de la paroi, c'est très vraisemblablement la dégradation du permafrost, elle-même associée à la crise climatique.
Merci beaucoup pour toutes vos précisions, Ludovic Ravanel. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, géomorphologue, et invité donc du 13-14 de France Inter. Et puisque l'on évoque les événements climatiques, les conséquences sur les territoires, j'ajoute que 14 communes du Var et 45 communes de Tarn-et-Garonne viennent d'être reconnues en état de catastrophe naturelle. L'arrêté ministériel a été publié ce matin, ce sont des communes qui avaient été touchées il y a 10 jours par des inondations et par des coulées de boue. Et puis au Canada, ce sont les feux de forêt qui suscitent là une vive inquiétude. Le pays est de plus en plus souvent touché par des incendies de très grande ampleur. Plus de 17 000 personnes sont en cours d'évacuation dans la région du Manitoba, dans le centre du Canada. La France et l'Indonésie signent un nouveau partenariat culturel pour faire de la culture une force économique et un terrain d'émancipation. Déclaration d'Emmanuel Macron en visite aujourd'hui sur l'île de Java. Nouvelle étape de sa tournée d'Asie du Sud-Est qui se termine demain à Singapour.
France Inter, le 13-14.
Céline Aslo. Comment redresser les finances publiques? La question, on le sait, occupe beaucoup le gouvernement. François Bayrou va présenter au mois de juillet prochain un plan de retour à l'équilibre et prévient qu'un effort sera demandé à tous les Français. De nombreuses collectivités locales ont d'ailleurs déjà commencé à faire des économies, notamment dans le secteur de la culture, ce qui provoque beaucoup d'inquiétudes. Mais d'autres font le choix inverse, celui de soutenir l'art et le patrimoine malgré le contexte tendu. Et c'est le cas de la ville d'Issoudun dans l'Indre. On va s'y intéresser avec vous, Julien Baldacchino. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rendu au musée municipal d'Issoudun, le musée de l'Hospice Saint-Roch, qui présente en ce moment les œuvres acquises ces dernières années.
Oui, car le musée qui accueillait à l'origine des collections historiques directement héritées de l'ancien hospice est aussi un lieu d'art contemporain. L'expo montre une soixantaine d'œuvres qui sont venues s'ajouter à une collection notamment axée autour du surréalisme avec des gravures signées de grands noms comme Dali. Tout cela dans un écrin très moderne, un bâtiment qui s'est agrandi petit à petit.
Alors et derrière cela, il faut dire, Julien, qu'il y a une vraie volonté politique.
Oui, le maire d'Issoudun est le même depuis le début des années 80 et il maintient son engagement auprès du directeur du musée, Patrice Moreau.
Bien sûr, on doit participer comme l'ensemble des domaines à des restrictions budgétaires. Mais effectivement, la volonté, c'est de faire en sorte que l'offre perdure, résiste et soit toujours présente. Elle l'est par le maintien de notre budget acquisition et restauration qui reste le même depuis ces dernières décennies.
Un budget de quelques dizaines de milliers d'euros par an avec en tête l'idée que la culture a un impact très large pour Anne Grézy-Aveline qui gère la communication du musée.
C'est une volonté d'éducation, d'améliorer la vie par la poésie que l'art peut apporter, par les savoirs, par l'imaginaire que ça peut susciter. Un autre aspect qui est vraiment très important sur une petite ville comme Issoudun, c'est de savoir que la culture est vecteur d'économie.
Et le clou du spectacle, c'est le très beau parc de sculptures à découvrir qui lui a ouvert en 2020.
Merci Julien Baldacchino, service culture écran de France Inter. Quand l'heure de la retraite a sonné, autant partir avec panache face à un super adversaire et sous les vivas du public, c'est peut-être ce que se dit Richard Gasquet qui s'apprête à affronter à Roland-Garros le numéro 1 mondial italien Yannick Sinner. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Le Français avait annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière après le tournoi. Et sauf énorme surprise, Fabrice, ce devrait donc être cet après-midi son tout dernier match.
C'est vrai, et il va y avoir de l'émotion forcément, beaucoup d'émotion aujourd'hui sur le central pour Richard Gasquet, mais aussi pour tous ceux qui vont regarder ce match, que ce soit en tribune ou devant la télé. Et sincèrement, Richard Gasquet ne pouvait pas rêver plus belle fin qu'aujourd'hui. Il fait beau, c'est un jour férié, il va y avoir du monde dans les tribunes et Richard Gasquet va disputer le 1018e match de sa carrière et de surcroît, vous l'avez dit, face à l'actuel numéro 1 mondial Yannick Sinner, face auquel il ne s'accorde que très peu de chances de l'emporter, il faut bien le reconnaître. Alors, tout le monde connaît Richard Gasquet, ce joueur surdoué, surnommé le petit Mozart à ses débuts en 2002 quand il avait 15 ans. Il en a aujourd'hui bientôt 35. Alors à son palmarès, 16 titres, une Coupe Davis en 2017 et une 7e place mondiale en 2007. Ça, ce sont les chiffres. En public, Richard Gasquet est plutôt réservé, mais en privé, c'est un autre homme. Gaël, mon fils, son pote, nous fait découvrir son Richard Gasquet.
C'est quelqu'un d'hyper marrant, quelqu'un qui est hyper affectueux, quelqu'un qui a la bonne parole. Honnêtement, il rate pas de moment, Richard. C'est vraiment un type extraordinaire et c'est un de mes meilleurs potes. Et ça, c'est fabuleux parce qu'avec tant d'années, on peut oublier, on peut des choses et lui, il n'oublie pas, il est toujours là, donc c'est extraordinaire.
Ça fait plus de 25 ans que Julien Cassaigne s'est lié d'amitié avec Richard Gasquet. Il a été son agent avant de devenir en 2018 son entraîneur. Julien Cassaigne considère quand même que Richard Gasquet n'a pas été forcément reconnu à sa juste valeur.
Il a gagné un match sur le circuit ATP à 16 ans. Il a gagné un tournoi à 37 ans. Richard, il a plus de 600 victoires sur le circuit. Bon, des demi-finales en Grand Chelem, ça, les gens le savent, mais les gens peut-être ne se rendent pas assez compte du talent qu'il faut pour être 22 ans dans les 100 meilleurs joueurs du monde. C'est très long, 22 ans.
Et quand tout sera terminé, peut-être aujourd'hui, comme Julien Cassaigne, il sera temps de dire à Richard Gasquet
merci et bravo.
Et c'est vrai qu'il faudra lui dire merci et bravo et tout le monde aura l'occasion de lui dire puisqu'à l'issue du match, il y aura une cérémonie à son honneur pour marquer la fin de sa carrière.
Voilà, un adieu ou un exploit, ce sera donc tout à l'heure sur le central à partir de 14h30 si je ne dis pas de bêtises, Fabrice.
Ouais, autour de 14h30.
D'autres Français en lice aussi aujourd'hui en ce moment, Arthur Fils sur le court.
Oui, Arthur Fils, opposé à Raume Munar, un espagnol. Et quand on dit espagnol, on dit forcément spécialiste de la terre battue. C'est un véritable test pour le numéro 1 français, Arthur Fils. Il a remporté toutefois le premier set 7-6. 6 jeux partout entre les deux joueurs dans la deuxième manche. Ils sont donc dans le tie-break alors qu'Arthur Fils, dans ce deuxième set, a servi pour le gain de la deuxième manche à 5 jeux à 4. Mais il ne s'est même pas procuré de balles de set. Et donc l'espagnol a poussé le français dans ce tie-break du deuxième set.
Voilà, j'en ai défi donc pour le camp tricolore. Merci Fabrice Abgral en direct de Roland-Garros. Du tennis et du foot aussi, bien sûr, au programme de ce week-end de l'Ascension J-3 avant la grande finale de la Ligue des Champions. Et on poursuit notre série dans le 13-14 avec des personnalités fans du PSG qui seront à fond samedi soir derrière leur équipe pour le match contre l'Inter Milan. Aujourd'hui, le chanteur Mathias Malzieu du groupe Dionysos, originaire de Valence dans la Drôme, ce qui ne l'empêche pas d'être un vrai supporter du Paris Saint-Germain. En toutes circonstances, vous allez l'entendre.
Moi, étant petit drômois rêvant de football, le Parc des Princes était un petit peu comme le pays des merveilles d'Alice, quelque part. Et je me souviens notamment de leur défaite contre la Juventus en 83, la Juventus de Michel Platini, qui était un autre de mes héros. Et je me rappelle de cette phrase de mon père qui m'avait dit après la défaite, « Ah, mais là, tu sais, le PSG, ils sont tombés sur un os. » « Un os ?» Je dis, mais le PSG, c'est un os aussi. » Oui, mais... C'est un os, si tu veux, mais c'est un os un peu mou. Et moi, je continue à trouver que c'était une équipe extraordinaire, suffisamment pour me faire rêver. Ce que j'ai fait de plus fou pour voir un match du PSG, eh bien, c'était le 11 août 2021 pour la présentation de Messi au Parc. Je ne pouvais pas rater ça. Eh bien, si, parce que je venais de manger une omelette avec des œufs douteux qui venaient de me faire vomir toute la nuit. Ensuite, parce que j'étais tout simplement en concert à Ronquière, au Festival Belge. Sauf que je jouais à 15h. Donc entre les vomissements intempestifs et puis un runner qui m'a amené jusqu'à la gare de Bruxelles midi, avec Rico, le batteur de Dionysos, nous sommes arrivés à nous glisser dans le Parc des Princes juste à temps pour voir arriver Messi. Et en plus, mon ventre allait mieux, donc tout s'est finalement très bien passé.
Le chanteur Mathias Malzieu du groupe Dionysos au micro de Mathieu Culeron. Alors c'est un PSG sans Messi hein, qui va affronter l'Inter Milan samedi soir, mais le club a d'autres atouts. Et on va en parler dans quelques minutes avec nos invités. Vous nous écoutez peut-être dans la voiture, dans les embouteillages. Bison Futé prend le pari qu'il y aura des difficultés importantes sur la route aujourd'hui jusqu'en fin d'après-midi en direction de la côte normande, dans le quart sud-est, en Ile-de-France. Déjà plus de 87 km de bouchons sur l'A7, conséquence évidemment de ce week-end allongé. Alors on est là pour accompagner bien sûr votre trajet, mais vous pouvez aussi écouter de la musique, car ça permet, selon un sondage OpinionWay pour l'association Prévention Routière, de réduire le stress au volant. C'est ce que disent en tout cas 66% des sondés. Et les conducteurs que vous avez rencontrés, Théo Baucher, place de la Bastille à Paris, confirment cette tendance.
La musique de Jean-Baptiste s'échappe des fenêtres de son utilitaire.
Dans le bouchon, à Paris, je mets ça.
Il passe 3 heures par jour au volant et toujours en chanson.
Ça me donne envie d'échapper à tout ça et de me trouver dans la grande route américaine.
L'association Prévention Routière a même classé les chansons les plus apaisantes pour les conducteurs avec The Eagles ou encore Queen.
Bien sûr.
Qu'adore Camille.
Ah, je chante. Non, c'est trop bien.
En voiture, mettre sa playlist est son premier réflexe.
C'est vraiment une bulle, c'est presque de la méditation pour moi. Je me sens vraiment même focus.
Des effets bénéfiques salués par Sophie Saintin, la déléguée de la prévention routière, mais...
Attention à deux points quand même. Le premier, c'est que la musique, on la met à l'arrêt. On ne manipule pas le téléphone, il ne faut pas que ça devienne un distracteur. On demande aux passagers de changer la playlist. Et l'autre point, c'est... que quand même la musique elle ne couvre pas les bruits ambiants et que le conducteur puisse rester attentif à son environnement et à ce qui se passe autour.
Et que finir sa chanson n'empêche pas de faire une pause toutes les deux heures.
Voilà, merci Queen et Théo Baucher bien sûr pour ce reportage. 13h28, restez avec nous sur France Inter. Dans la prochaine demi-heure, les prévisions d'Élodie Calac pour le début de ce long week-end. On espère évidemment que vous allez bien en profiter malgré les embouteillages. Ensuite, on va se pencher sur les raisons du succès du PSG. Le club a un match du sacre européen. Ça fait des années que les Parisiens rêvent de la Ligue des Champions. Les supporters, cette fois, commencent vraiment à y croire. Alors, quelle est la recette? Cette année, Nathalie Yannetin, la directrice des sports de Radio France, et l'ancien joueur du du PSG Vincent Guérin sont avec nous et avec vos questions. 01 45 24 7000 et l'appli Radio France. Une autre grande compétition à suivre, c'est celle du Livre Inter. Le lauréat ou la lauréate sera révélé lundi matin. Tous les jours, on vous fait découvrir l'un des auteurs en lice. Et aujourd'hui, c'est Constantin Alexandrakis qui est au micro d'Eva Bétan dans un instant. 13h50, c'est la France. Bonjour Marie-Luce Ribot.
Bonjour Céline.
On va parler du bio qui ne se porte pas très bien, mais qu'on a célébré hier dans une petite ville du sud-ouest.
Celle de Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. On y a fêté hier les 50 ans du plus vieux marché bio de France, dans un contexte particulier, puisque vous l'avez dit, cette filière est en souffrance.
Et bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Céline.
Qui est à votre micro aujourd'hui?
Eh bien, nous irons à la rencontre de l'actrice Anne Parillaud, qui sera de retour au théâtre la semaine prochaine à Paris. Anne Parillaud qui écoute très peu de chansons, et avec elle, ce n'est donc pas d'une chanson que nous parlerons, non, mais d'un air. Un air d'une cantate d'Antonio Vivaldi avec le contre-ténor Philippe Jarouski.
Bon, voilà que c'est chic.
Ah, c'est très chic.
À tous les
très,
deux.
Très chic.
À tout à l'heure.
Ah chérie, le monsieur qui veut nous cambrioler est passé aujourd'hui pour savoir quand on part.
Et tu lui as dit août?
Oui, il voulait venir le week-end du 15, c'est plus calme.
Et tu lui as dit qu'on est abonné à Omiris?
Oui, mais alors là il est parti en courant.
On est tellement plus détendu quand on est protégé par Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, le bon rapport sécurité-prix, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par UPS, agréé CNAPS.
Cette histoire a commencé sur Canal+. Le Paris Saint-Germain a connu le doute, il aurait pu tomber. Et puis,
tout a changé, un collectif s'est révélé.
Il peut désormais aller au bout de son rêve.
Ne vous trompez pas de finale. Dispositif exceptionnel en direct du Munich Football Arena.
La finale de l'UEFA Champions League Paris Saint-Germain Inter Milan,
c'est samedi à 21h en direct sur Canal+.
Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Tout de suite la météo.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, c'est plus ensoleillé et c'est plus chaud aussi.
Oui,
hein,
la chaleur s'accentue. Le pic sera souvent atteint demain. Il fera très chaud encore dans l'Est samedi, mais ça baissera par l'Ouest. Cet après-midi, 20 à 23 degrés attendus près de la Manche, 22 à 26 sur le reste de la moitié Nord, 26 à 28 sur l'Auvergne-Rhône-Alpes. On ira jusqu'à 30 degrés sur le Sud-Ouest, 30 à 34 même du Languedoc-Roussillon vers la Provence. Alors ça reste très nuageux sur les Hauts-de-France cet après-midi avec du vent. Les éclaircies vont s'imposer sur le Nord-Ouest. Elles sont belles du bassin parisien au nord du Grand Est. Et puis en allant vers le sud, là le soleil brille franchement. Près de la Méditerranée, on a toujours du Mistral jusqu'à 70 km à l'heure, mais la tramontane s'essouffle tranquillement. Demain donc, je vous le disais, du soleil partout. Les 30 degrés progresseront vers le nord. Il fera souvent 30 à 34 degrés au sud, jusqu'à 35 à 36 pour le sud-ouest, mais ça tournera à l'orage en fin de journée au sud de la Garonne déjà.
Merci, oui déjà. Profitons-en bien avant l'orage. Merci Elodie Calac de Météo France.
France Inter. Le 13-14. Céline Aslo.
Des messages de soutien qui sont affichés sur les panneaux municipaux, la Tour Eiffel qui va scintiller demain en l'honneur de ses joueurs, avant peut-être la grande parade des vainqueurs qui sera organisée dimanche sur les Champs-Élysées. Paris se prépare à la victoire, ça devient concret et ce n'était pas arrivé depuis longtemps. Alors comment expliquer que cette fois le PSG soit parvenu si près du but et quels enjeux sportifs, économiques pour la ville et pour son club de foot? On va en parler avec vous, Nathalie Yanetta, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Directrice des sports de Radio France. Et avec Vincent Guérin, bonjour à vous.
Bonjour à Nathalie, bonjour à vous.
Salut Vincent.
Entraîneur, on sent que vous connaissez bien. Entraîneur consultant, ancien milieu terrain du PSG, vous avez remporté le seul titre européen, en tout cas jusqu'à présent, du Paris Saint-Germain. C'était la Coupe des vainqueurs de Coupe en 1996. Alors on va rappeler l'affiche quand même pour ceux qui seraient passés à côté. Le PSG face à l'Inter Milan après-demain en finale de la Ligue des Champions. Nathalie Yanetta, est-ce qu'on aurait pu l'imaginer cette affiche en début de saison?
Globalement, il faisait quand même et l'un et l'autre partie des favoris, parce que ce sont deux équipes, on en reparlera, qui ont une vraie empreinte européenne ces dernières années, pas pour les mêmes raisons, ni l'une ni l'autre. L'Inter a évidemment un passé beaucoup plus glorieux en Europe que le Paris Saint-Germain, mais néanmoins, oui, ça faisait partie en gros des équipes pas pour aller jusqu'en finale de manière quasi certaine, mais qui faisait partie des grosses cylindrées, comme on dit.
Vincent Guérin, même question, je sais que c'est facile à dire aujourd'hui, mais oui, bien sûr, on était tous très confiants, mais est-ce que vous l'étiez, vous, au début de saison? Est-ce que vous auriez imaginé cette finale?
Non, vu le départ des Parisiens, parce que les premiers matchs de poule ont été, de phase éliminatoire ont été très complexes et très compliqués. Les contenus n'étaient pas vraiment présents, les résultats étaient vraiment tirés par les cheveux. Donc c'est vrai qu'il y a eu un match, je pense, qui a fait un peu pencher la balance sur le plan mental. C'est le match au Paris Saint-Germain où l'équipe était un peu dos au mur. Et où ils ont battu Manchester City. Et je pense que ce match-là, c'est un peu le match référence au niveau, surtout mental, qui leur a permis de basculer dans une autre dimension. L'Inter de Milan, après, on connaît le prestige de cette équipe européenne. Ils ont joué une finale de Ligue des Champions il y a 2 ans. Donc, c'est pas un inconnu. Puis, ils ont fait partie des 3 meilleures équipes, je crois, des phases éliminatoires. Donc, c'est une certaine logique.
Il y a eu un déclic, en tout cas, c'est ce que vous dites. Si on en parle autant, c'est aussi parce que c'était presque devenu une blague, le PSG qui n'arrivait pas à gagner la Ligue des Champions, malgré les stars, malgré les paillettes, les millions. Bon, quand on regarde ces dernières années, Nathalie Gannetta, il y avait pourtant des matchs pas si loin, on va dire, de la finale. Mais cette fois, qu'est-ce qui fait qu'on y croit peut-être plus que d'habitude?
Bah d'abord parce qu'ils y sont, en finale, et que ça leur est arrivé qu'une seule fois, et c'était la fameuse finale du Final 8. Souvenez-vous, on sortait du Covid et c'était en 2000, tout était regroupé au même endroit à Lisbonne. C'était une drôle de fin de compétition européenne. Donc on y croit parce que, bah, pour le coup, là, ils y sont en finale. Parce que, Vincent l'a dit, c'est aussi un club qui s'est transformé tout au long de cette saison. La transformation, on y reviendra peut-être, elle a déjà débuté la saison dernière. C'est Luis Enrique qui était ce que Luis Campos, qui est le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a appelé le chaînon manquant, la pièce manquante pour ce que la machine ne déraille plus. Donc voilà pourquoi les Parisiens ont toutes, bien plus que les autres années, de raison d'y croire. Ils sont en finale, ils ont mérité leur place, ils ont fait une deuxième partie de parcours, à la fois dans leur style de jeu et dans leur vraiment puissance mentale, quasiment des sans faute jusque-là. Donc évidemment que les supporters parisiens ont toutes les raisons d'y croire cette année.
On va aller au Standard de France Inter où nous attend Guillaume. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Céline Asselot, Nathalie Gannetta et Vincent Guérin. J'ai une question pour Vincent. Vous qui avez joué et gagné la Coupe des Coupes en 1996 avec le PSG pour sa première finale de Coupe d'Europe, quel conseil vous allez donner aux joueurs parisiens ce samedi soir à Munich pour la victoire finale? Et puis, qu'est-ce qui vous avait permis de gagner il y a 30 ans la Coupe des Coupes? Merci beaucoup.
Guillaume, je me permets de vous poser la question. Je vois que vous vous appelez Toulouse. À Toulouse aussi, on peut être fan du PSG?
Alors, on peut être fan du PSG, tout à fait. Alors, je suis aussi fan du TFC, qui est moins bon en Coupe d'Europe, mais j'étais à Paris et j'ai vécu la grande période européenne entre 98, parce qu'avant le Qatar, il y a eu un PSG Canal+, avec 5 demi-finales de suite, il me semble.
Je laisse Vincent Guérin répondre à votre question. Merci, Guillaume.
Bah, les conseils, c'est toujours très compliqué de conseiller. Après, une finale, ça reste une finale, c'est un moment unique. Et c'est surtout de rester soi-même. C'est ce qu'il y a peut-être de plus compliqué, parce qu'il y a un enjeu qui est majeur et parce que tout l'environnement qui est autour de vous ne vous parle que de ça. C'est-à-dire que ça va être votre famille, vos amis, les médias. Enfin, c'est un événement qui est majeur dans une carrière professionnelle. Donc, il faut savoir émotionnellement gérer ce genre de situation, ce qui n'est pas toujours facile. Mais ça sera, je pense, un des enjeux de cette jeunesse, parce que l'équipe parisienne est l'une des plus jeunes de la compétition.
C'est la plus jeune. La plus jeune.
Ouais, c'est exactement. Donc, il faudra gérer ce facteur émotionnel avant cette finale et de jouer comme ils l'ont, de pas bafouer leur jeu. Ils ont été très performants à travers ce qu'ils ont fait à partir du match de Manchester City. Et ces valeurs-là, bah, il faut encore les déployer sur cette finale.
Vincent Guérin, est-ce que c'est aussi le rôle de l'entraîneur? On parlait de Luis Enrique tout à l'heure avec Nathalie Gannetta. Est-ce que c'est à lui aussi d'amener de la sérénité au sein de l'équipe pour pas se laisser déborder par l'enjeu?
C'est une priorité. L'entraîneur est le capitaine du bateau et c'est lui qui donne la direction, c'est lui qui donne le tempo et c'est lui qui doit amener cette sérénité aussi au travers de son groupe, de ses joueurs, à apporter ce calme pour affronter cet événement. Et ça, c'est important. Il n'y a pas que lui, il y a son staff aussi, mais tous les gens qui l'entourent et lui en particulier sont des pions importants justement pour aborder au mieux ce genre d'événement.
D'autant, Vincent a raison, que une finale, il y a un petit facteur psychologique qui s'appelle l'expérience. Luis Enrique, il a l'expérience des finales de Champions. Il en a gagné à la fois comme joueur et comme entraîneur du FC Barcelone. C'est lui qui fait le triplé championnat, Coupe du Roi, Champions League, exactement ce que potentiellement peut viser le Paris Saint-Germain, qui, je vous le rappelle, sont champions de France, qui ont remporté la semaine dernière la Coupe de France et qui peuvent faire un triplé historique.
On a parlé il y a un instant de la jeunesse de cette équipe. Alors c'est vrai, quand on regarde l'âge des joueurs, Dembélé qui a 28 ans, il a presque l'air d'un vétéran à côté de ses coéquipiers.
Il l'est,
c'était quand même dingue. On est très jeune évidemment à 28 ans, mais on est très loin d'un Messi, d'un Neymar ou même dans une certaine mesure d'un Mbappé qui avait plus d'expérience. Est-ce que c'était sur le papier peut-être un défi, un pari audacieux, ou est-ce que c'était la seule solution de toute façon pour amener une équipe à faire corps collectif et aller jusqu'au bout, Nathalie Gallagher?
Je crois que c'est un peu tout ça. Quand vous écoutez Luis Campos, qui est encore une fois le directeur sportif, il dit, voilà, à un moment on a essayé avec des stars, ça n'a pas marché. Il se trouve que Kylian Mbappé était la dernière star après le départ de Neymar et qui avait succédé au départ de Messi l'an dernier. Très vite, Luis Enrique a dit, Kylian Mbappé c'est le meilleur joueur, il n'y a aucun problème. Mais on sera meilleur sans lui qu'avec lui. Pourquoi ? Parce que quand vous avez un très très grand joueur, ça c'est la philosophie de Luis Enrique. Il dit que quand vous avez un très très grand joueur, l'équipe se met au service de ce grand joueur. Ce qui fait que du coup, des tâches défensives, du collectif, de la manière de se dépasser soi-même et faire ce qu'on appelle un dépassement de poste, vous n'arrivez moins, c'est plus bancal. Là, il s'est dit, ok, il n'y a plus Mbappé, donc tout le monde a la même enseigne. Il n'y a pas une star. La star, c'est le club. La star, c'est l'ambition en Ligue des Champions. Et c'est probablement ce qui fait aussi qu'à un moment donné, on a eu beaucoup de mal à comprendre ce que faisait Luis Enrique. Il déteste les journalistes. Et par ailleurs, il n'a pas complètement tort, parce qu'ils ont été quand même, nous avons été collectivement extrêmement durs avec lui. On a mis un temps fou, et ses joueurs aussi, à comprendre son jeu de position. Et aujourd'hui, eh ben, une fois qu'ils ont eu le déclic et qu'ils ont compris, ils sont en finale de Champions. Quoi qu'il arrive samedi, c'est pas rien d'être en finale de Champions League.
Alors je voudrais vous faire écouter un petit extrait d'un documentaire où justement on a pu filmer Luis Enrique en train de recadrer, on va le dire comme ça, Kylian Mbappé, parce que c'est quand même rare de parler à une star comme lui comme ça, avec ses mots. C'était dans les vestiaires du PSG quelques mois avant son départ. Écoutez.
Je veux que tu partes d'ici par la grande porte, Kiki. Je n'ai aucun doute là-dessus, mais il faut le mériter. Et pas en attaquant. Il n'y a personne comme toi, je le sais déjà. Mais le jour où tu n'attaques pas, tu dois être le meilleur joueur de l'histoire en défendant. Ça, c'est un leader. Ça, c'est un Michael Jordan. Ok ? C'est clair pour toi ? Eh bien, je t'expliquerai l'attaque demain. Merci.
Voilà, je t'expliquerai l'attaque. Vincent Guérin, est-ce que c'est facile pour un entraîneur de parler à un joueur comme Mbappé de cette manière-là ?
Il faut rester soi-même. Après, pour en revenir juste avant, j'aurais juste une parenthèse. C'est que la star du club aujourd'hui, c'est l'équipe. Et ça, ils ont mis du temps au club à comprendre que pour aller très loin dans les compétitions, et notamment européennes, il fallait avoir une équipe et non une star et des joueurs. Et là, c'est important. Après, Luis Enrique, il a un statut de joueur, d'ancien joueur référent, entraîneur aussi. Donc c'est très facile de s'exprimer par rapport à un joueur comme Mbappé pour lui expliquer les choses. Et je pense que ça ne lui est que profitable pour la suite de sa carrière.
Alors, je lisais un sondage réalisé le mois dernier auprès des supporters du PSG qui le consacre meilleur entraîneur de l'histoire du club. À 62% des répondants. Je ne sais pas s'il est même meilleur que Luis Fernandez, qui a été votre entraîneur, Vincent Guérin, de votre point de vue.
Non, mais je pense qu'ils ont tous une particularité et tous des points positifs. Je pense que Enrique aussi a des défauts, comme tous les entraîneurs, comme tout être humain. Maintenant, là, les résultats, il est dans la bonne vague. Tout va bien, mais si l'année prochaine, enfin, même s'il gagne la Coupe d'Europe, parce que j'espère que c'est ce qui se passera à 23h ou plus à Munich samedi soir. Si il est toujours au Paris Saint-Germain et pendant 3 mois, il perd tous ses matchs, il sera construit et de nouveau, on leur mettra sur le devant de la scène, comme ce qui se passe avec Donnarumma, où à chaque match où ça se passe pas bien, on dit qu'il faut le sortir de l'équipe, il faut qu'il soit transféré. Et aujourd'hui, bon, il a fait un parcours brillant avec le Paris Saint-Germain, avec des arrêts décisifs, on le considère comme le meilleur gardien du monde. Donc il faut prendre un peu de recul sur tout ça aussi.
Nathalie Yaneta.
Oui, sur Luis Enrique, en l'occurrence, il a emmené le Paris Saint-Germain en demi-finale l'an dernier. Il a dit, voilà, on aurait dû aller en finale. On n'y est pas, félicitations au Borussia Dortmund. On fera mieux l'année prochaine. Là, il dit, bien évidemment qu'on va gagner cette finale, mais dans sa tête, il se dit, c'est la marche encore qui manquait, aller en finale. Et si ce n'est pas pour samedi, lui, il est certain qu'il pourra les faire gagner l'an prochain.
Est-ce que ce n'est pas gagné, quand même, d'un certain point de vue, d'être en finale d'être vraiment installé d'un point de vue financier économique.
Alors quand même, si, par ailleurs, c'est ce qui est gagné, en tout cas, c'est une forme quand même de régularité. Depuis l'arrivée des Qataris à la tête du Paris Saint-Germain, il n'y a pas une saison où ils n'ont pas joué la Champions League. Hein. C'est une qualification permanente pour la plus grande des compétitions. Ils ont fait 4 huitièmes de finale. C'est aussi pour ça que du coup, on considérait que ce parcours était un petit peu décevant, pour ne pas dire plus, du PSG. 4 quarts, 2 demi et donc deuxième finale. Ce qui est quand même,
oui, assez, y a une régularité quand même.
Voilà, c'est assez remarquable. Si on met encore une fois à parler les huitièmes de finale, le Paris Saint-Germain, c'est l'un des plus gros budgets d'Europe, mais il est inférieur quand même au Real Madrid, qui a un budget de 940 millions. Le PSG, c'est en gros 800 millions d'euros. Donc, ça, c'est une énorme écurie qui a affiché des ambitions, et c'est probablement ce qui a joué des tours à Nasser El Khelaifi, c'est qu'il avait fait de la victoire en Champions League l'alpha et l'oméga. Or, depuis 2 ans, avec moins de stars, avec un entraîneur à qui il donne les clés et du temps. Il y a, bien évidemment que Nasser, il veut gagner. Il a dit, c'est pas fini. Quand ils se sont qualifiés pour la finale, c'est son rêve ultime. Mais est-ce que ce sera cataclysmique si c'est pas pour samedi ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'ils ont compris. Il a fallu 10 ans pour qu'ils comprennent que le football, c'est difficile, que la Champions, c'est la compétition ultime, la plus dure à gagner, qu'il faut du temps à ses entraîneurs et à ses joueurs.
J'ai forcément envie de vous demander si vous avez un pronostic. Vous n'êtes pas obligé de me répondre.
Non, alors oui, je pense que d'abord, c'est des équipes qui se ressemblent. Vincent a dit, il n'y a pas de star au PSG. Il n'y en a pas non plus à l'Inter. C'est des équipes au mental. Tout ce que j'espère, c'est que ça sera un beau match, parce que les finales, on s'ennuie souvent beaucoup. Hein.
Vous aussi, Vincent Guérin, le principal, c'est le spectacle ?
Non, Vincent, non, il est supporter du PSG.
On a bien compris que vous souhaitiez la victoire.
Quand vous jouez une finale, c'est malheureusement la première des choses, c'est la gagne. Après évidemment, eh ben si on peut bien jouer et faire un bon match,
c'est bien d'avoir les deux.
Il faut avoir les deux.
On verra ça samedi soir à 21h à Munich, le PSG face à l'Inter Milan. Merci à tous les deux, Nathalie Yaneta et Vincent Guérin, d'être venus nous en parler dans le 13-14 de France Inter. Allez, place maintenant notre feuilleton, et c'est une semaine spéciale consacrée au livre Inter qui se poursuit. Le nom du lauréat ou de la lauréate sera annoncé lundi matin, et nous on fait le tour des concurrents dans le 13-14. Aujourd'hui, Constantin Alexandrakis et son livre L'hospitalité aux démons, un livre Eva Vétan sur les violences sexuelles et la libération de la parole d'un point de vue masculin.
Les hommes aussi, hélas, ont été des enfants abusés. Page 28. Précisons qu'il a subi de menues violences discontinues, quelque part entre 9 et 14 ans. Ce livre nous saisit par le col, par sa force de vie, la vie en ce sens que l'on se débat avec des choses impossibles par tous les moyens, l'ambition de faire un panorama des violences sexuelles, la colère, l'humour, beaucoup d'humour, et l'espoir, ce sont vos mots, en notre humanité indestructible. Il faut cela car le traumatisme se rappelle à lui au meilleur et au pire moment. Quand ça finit, il se met à avoir peur de lui-même, peur de lui faire du mal, une victime qui craint de devenir bourreau.
Et c'est cette peur de reproduire. C'est le propre de la peur, c'est la peur qui génère de la peur. Et du coup, ce narrateur va se plonger dans une enquête, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que tout ce bazar de violence sexuelle, quoi. Principalement, il lit des auteurs féministes, et puis il essaye aussi de revenir sur des œuvres majeur de l'art littéraire, principalement, mais aussi de l'art contemporain. C'est toute une relecture de toute une culture. Il y a Lolita de Nabokov, voilà. C'est un peu tout un champ de l'art où on a beaucoup fétichisé les enfants et beaucoup fétichisé la perte de l'innocence. Parce que c'est un double mouvement. Il y a eu des avancées des mœurs majeures dans les années, à la fin des années 60 qui nous ont apporté énormément de liberté. Et il ne s'agirait pas de revenir là-dessus. Et en même temps, l'autre versant de la révolution sexuelle, en fait, quoi, la critique des violences sexuelles, c'est l'autre partie, c'est la face cachée de la lune.
Il y a deux registres. Il y a le registre, je dirais, de l'enquête, essayer de comprendre l'étendue des violences sexuelles, et il y a vous, le narrateur lui-même. Je voudrais qu'on entende un extrait.
C'est page 115. C'est quoi le rapport avec mon putain de petit pédophile personnel comme source ultime à toutes ces difficultés? Combien pèse cet ancien merdier face au manque de sommeil et la pression d'un gamin au petit matin? C'est objectivement pénible et harassant le matin, chaque matin? Tous les matins, un gosse sur le dos qui te suce le sang. C'est Chucky, c'est l'exorciste, c'est Alien, c'est Chromosome 3. Les seuls documents proches du réel que vous puissiez trouver, elle va avoir ma peau.
Tout à fait, puis il y a une prise de distance comme ça où on n'est pas constitué uniquement par des traumatismes d'enfance, il y a aussi le réel d'aujourd'hui. Là, c'est traité aussi avec humour. Je voulais qu'on entende ça,
parce qu'il y a cet humour.
Ben oui, et puis il y a toutes ces espèces de sujets de société là, dont je parle beaucoup, mais c'est surtout un bouquin que j'ai fait. Et c'est pour ça que c'est une enquête, mais c'est à ma façon, quoi. C'est pas une enquête, effectivement. Moi, j'ai pas d'outils sociologiques et tout ça, et puis j'aurais pas envie de faire ça.
Le roman, c'est pas un programme politique, mais il y a des choses sur lesquelles vous avez des convictions. Parler du consentement d'un enfant, ben non, il n'y a pas de consentement d'enfant. Vous dites, c'est à l'adulte à dire, tu es trop jeune, non.
Voilà, ben ça c'est très clair, ouais. Alors ce problème, il est tellement compliqué, c'est vraiment des jeux de langage. Ouais. Parce que moi, ce que je dis qui peut faire peur et qu'il y a une ambiguïté, c'est que bien sûr, un enfant peut consentir à vouloir expérimenter des choses. Il est un pré-ado, ça ne demande qu'une chose, c'est de connaître ce que c'est que la sexualité. Et le problème, c'est qu'on exploite son consentement. C'est pas qu'ils consentent. Du coup, quand on dit il y a pas de consentement possible, je suis pas d'accord parce que en fait il y a un consentement, mais le problème c'est qu'on l'exploite et qu'il y a quelqu'un qui en profite. Et c'est ça qu'on doit entre guillemets juger ou en tout cas c'est là qu'il y a le vice.
Et suite et fin demain de notre tour d'horizon des auteurs en compétition pour le livre Inter.
France Inter. Le 13-14.
13h50, c'est la France. Marie-Luce Ribot, vous allez nous parler aujourd'hui du bio, certes en difficulté, mais qui était célébré hier dans l'un de ses bastions.
De très nombreux défenseurs de cette filière s'étaient en effet donné rendez-vous à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne, pour célébrer les 50 ans du plus vieux marché bio de France. Nous étions donc en 1975 quand il a vu le jour, et rien ne vaut Céline, un flashback dans l'époque. Ces années-là, c'est l'avènement des hypermarchés, de la choucroute en boîte, du jus d'orange en poudre, des premières chips. L'agroalimentaire est devenu la première industrie mondiale. Les experts de la consommation sonne la mort des marchés traditionnels. En 1975, il fallait donc être un peu fou ou descendre tout droit du plateau du Larzac pour lancer un marché bio. D'ailleurs, qui savait ce que ça voulait dire ?
Mais il y avait au moins son créateur, Paul Simonet.
Paul Simonet a embrassé le bio sans grande théorie. Il cultivait des fruits depuis le début des années 50. En 1969, après avoir contracté une maladie hépatique grave, il décide de bannir l'utilisation des pesticides, engrais et désherbants de synthèse. Il est convaincu que la chimie l'a empoisonné et que sa terre l'est aussi. Il n'a rien d'un hippie ni d'un homme en colère, mais il a du charisme et un pouvoir d'entraînement. C'est ainsi que tout a débuté. Cet homme et ses quelques amis agriculteurs, à qui, comme lui, a des pratiques agricoles sans drogue, sont venus tout simplement vendre leurs produits en ville. Ils avaient l'intuition que l'agriculture conventionnelle nuisait à notre santé, confie Pierre Pernix, maraîcher et président de l'association du marché bio. Le creuset du succès, nous avions une terre fertile, un climat propice, une culture agricole. Et la demande était là. Les années ont passé, une solidarité et des affinités se sont créées entre les exposants, avec les clients de la première heure et désormais avec leurs enfants. Notre marché bio coche toutes les cases de l'avenir, malgré les attaques.
Oui, la semaine dernière encore, le bio a essuyé un nouveau revers.
Exactement. Jeudi dernier, le président de l'agence bio, l'organisme public chargé d'orchestrer la filière, est tombé de sa chaise. Sans coup férir, le gouvernement a réduit de 18 à 8,7 millions d'euros le fonds Avenir Bio qui soutient les fermes et entreprises engagées dans la transition alimentaire. Il a aussi mis un coup d'arrêt à une campagne grand public qui débutait à peine. En pleine crise de la consommation de bio, la pilule est amère. C'est le mur porteur qu'on démolit, nous confiait hier le président Jean Verdier. Mais passé la sidération, nous allons tout entreprendre pour que le gouvernement revienne sur sa décision. Ceci, Céline, reflète le chaud et surtout le froid qui souffle sur la filière. Le 24 avril 2024, le gouvernement publiait Ambition Bio 2027, un programme volontariste pour la soutenir. Depuis, l'objectif de 21% de surface agricole utile cultivée en bio d'ici 2030 a été rayé du code rural.
Allez Marie-Luce, ces annonces ne vont tout de même pas nous couper l'appétit.
On va même mettre les bouchées doubles avec le plat bien consistant de Viviane Maubert, 39 ans, éleveuse de chèvres, de poulets et de porcs bio. Voici son cabri confit au vin blanc qu'elle sert à l'assiette avec des frites maison et qu'on remplacera sans souci par un gigot d'agneau. Dans une cocotte en fonte, couvrez la viande en proportion égale d'huile d'olive et de vin blanc. Ajoutez de l'oignon, un bouquet garni et des baies roses. Couvrez et enfournez pendant 2h30 à 150 degrés. C'est tout, c'est simple, c'est fondant et hier, on se pressait pour le déguster sur son stand du plus vieux marché bio de France.
Merci Marie-Luce Ribot du quotidien Ouest France. De C'est la France à C'est une chanson et c'est l'actrice Anne Parillo que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui Frédéric Pommier.
Elle sera dans quelques jours à l'affiche du Théâtre des Variétés à Paris dans la pièce Le Bémol. Comédie dont les principaux protagonistes évoluent dans le monde de la musique classique. Anne Parillo aime d'ailleurs beaucoup le répertoire classique et certaines musiques plus particulièrement.
Les musiques qui véhiculent une émotion dramatique. C'est vraiment ces sons graves et ces sons douloureux que je ressens et que je perçois et qui m'atteignent. Mais je ne les vis pas forcément tels qu'ils ont été écrits. Et c'est en ça que j'aime les sons dramatiques, c'est que je trouve que c'est des musiques qui ne racontent pas, mais qui transmettent. Et moi, j'aime pas qu'on me raconte. Parce que me raconter, ça veut dire qu'on me limite dans ce que moi, je dois ressentir, alors que me transmettre, on me laisse la liberté, moi, de me raconter ce que j'ai envie, de me raconter.
Donc une chanson qui raconte une histoire, vous n'êtes pas sensible, a priori?
Non, ou alors je vais la détourner. Et elle va m'évoquer autre chose. J'ai du mal souvent à coller à l'émotion de quelqu'un d'autre, en fait.
Une chanson que l'on entend là, Frédéric, mais une cantate d'Antonio Vivaldi, le quatrième mouvement du Nisi Dominus, avec le contre-ténor Philippe Jarouski.
Autrement appelé le Cum Dederit, ce mouvement, morceau qui a notamment accompagné l'un des mariages d'Anne Parillo.
C'est un opus sacré, et déjà dans le mot sacré, on a tous les qualificatifs qui, moi, m'enivrent. C'est-à-dire que c'est de la passion, c'est de la dévotion, c'est de l'amour, c'est du mystère. Et donc ce morceau-là remplit toutes ces cases qui sont vraiment ce qui m'habite. C'est pour ça que j'ai plus de mal parfois avec les chansons, où il peut y avoir quelque chose de plus léger et de plus même vivant, parce que dans un opus sacré, il y a quelque chose presque d'irréel. On sort du monde, le monde ralentit, on est presque dans une méditation. Et c'est là où je dis que ça ne raconte pas. Ça transmet. Et donc, j'ai écouté cette musique pour mon mariage, mais je l'ai aussi écoutée pour mon divorce. Parce que voilà, c'est une musique qui est valable en toutes circonstances pour moi.
Quand vous l'avez choisi au moment de votre mariage, c'était au moment de l'entrée dans l'église ?
Oui, absolument. Oui, c'était pour me présenter devant lui, devant le Tout-Puissant, le demander en témoin en fait, et de lui dire voilà, je m'engage dans un sacre. Et c'est ce que j'ai envie d'entendre au moment où je me marie en fait. Cette musique m'apporte un abandon. Une âme qui ne résiste plus. Et je pense que c'est l'état dans lequel on doit être quand on se marie. Et j'étais très heureuse d'avoir cette musique-là pour mon mariage, mais je peux aussi l'avoir quand j'écris ou sur un plateau de cinéma, quand j'ai besoin de me concentrer immédiatement dans une émotion où je suis inspirée. Elle peut me faire monter les larmes immédiatement, mais elle peut m'apporter aussi une irréductibilité face aux événements de la vie. C'est-à-dire que c'est pas une complainte pour moi, alors qu'elle peut l'être pour d'autres. Pour moi, c'est une ressource. C'est-à-dire qu'effectivement, elle va m'apporter cette rage et cette violence d'existence.
Cette musique, elle a quelque chose de divin.
Totalement. Totalement. Et cette musique, on ne la possède pas. Elle nous échappe parce qu'elle est trop dans l'au-delà, oui. Elle nous emmène trop loin, trop ailleurs. C'est grandiose, en fait, c'est grandiose.
Dans un état d'abandon, le Cum Dederit de Nisi Dominus, de Vivaldi, la voix de Philippe Jaroussky. C'était donc Frédéric, le choix d'Anne Parillaud.
Anne Parillaud, que vous pourrez retrouver du 3 au 21 juin dans la pièce Le Bémol. C'est au Théâtre des Variétés à Paris.
Merci Frédéric Pommier.